sûr. Ça vous arrive sûrement, vous, que ça part dans l'ensemble, sûrement. Non, 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 ça, vous, ça ne peut pas. Donc, n'en parlons pas. Nous continuons à méditer sur leur raison. On avait vu la première fois une chose essentielle, c'est que l'horizon ne se fait pas avec n'importe quel regard sur Dieu. La prière ne se fait pas à partir de n'importe quelle puissance, à partir de n'importe quelle capacité qui se trouve en nous. Et la capacité, l'œil de faucon, qui est de mettre en horizon et d'adorer. Rappelez que dans l'Apocalypse, la femme, il donnait deux ailes de lait. L'adoration et l'horizon, la contemplation. Mais le regard de l'aigle, ça se fait avec un œil très particulier, une espèce de rayon laser qui traverse l'espace et le temps, et aussi toutes les profondeurs de la lumière et des sources de la lumière. Et on avait bien vu que ce regard, cette puissance qui est en nous, c'est l'essence de l'âme. Très bien. Bon. Là, on a bien regardé ça. C'est avec l'essence de l'âme que je regarde Dieu. Dieu, en tout cas. C'est avec l'essence de l'âme. C'est pas avec mes idées. Parce que mes idées n'ont aucune possibilité de voir Dieu. C'est pas non plus avec mes yeux de glauque, mes yeux de crapaud. Là, la mouche a des yeux plus perçants qu'elle. C'est pas avec mes yeux de chair et de sang, c'est sûr. Même si ce sont des yeux humains, c'est pas non plus avec les yeux de l'âme. C'est curieux de dire ça. C'est avec l'essence de l'âme. C'est en dessous des sources de la vie. Il y a quelque chose qui dépasse l'âme, qui dépasse le corps. Et c'est cette espèce de... C'est extraordinaire d'ailleurs de voir que l'homme, c'est un... Si on pouvait résoudre ce que c'est que l'homme, au niveau de sa substance, c'est un regard. C'est un regard incarné. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin en disant que l'homme est capax dei. C'est une capacité, une puissance obédientielle pour voir Dieu. Et si à un moment tu dis, je veux voir Dieu, ça y est, tu es dans l'essence de ton âme. Et ça, on avait vu ça la première fois. La seconde fois, on a bien regardé que, bien sûr, si on pose ce regard comme ça tranquillement sur Dieu, quand on fait la prière, quand on rentre à l'intérieur de la prière, on pose ce regard sur tout simple sur Dieu, et on va entrer dans une autorisation, une communion avec lui qui va être telle que petit à petit, c'est lui qui va prier à l'intérieur de nous. Et de sorte que la prière devienne une prière vraiment divine. Une prière qui n'est pas divine n'est pas une prière. Et il faut que la prière devienne divine, vous comprenez, parce que la prière, c'est une relation vivante, réciproque, fondue, entre Dieu et celui qui prie. Mais il me semble que Dieu a plus de poids que celui qui prie, et donc si le poids de ta prière est plus du côté de tes instincts, de tes envies ou de tes impressions, c'est que ça ne doit pas être une prière. Il doit y avoir un problème, quoi. Si c'est le poids de ta prière te place dans les énergies, c'est toujours la même chose. Alors, bien évident que les énergies, c'est pas Dieu, donc ça reste quelque chose de tout à fait cosmique, créé, et donc ça, ce n'est pas une prière non plus, c'est une impasse. Donc on avait vu ça, on avait vu que du coup, on avait vu ça la dernière fois, on avait vu que pour qu'il y ait une prière, il faut que ça prenne finalement, il faut que ça prenne. Il faut qu'on rentre dans dans l'éternité. Mais pour qu'on puisse rentrer dans l'éternité, il faut qu'on donne du temps. Voilà, ça, on avait vu ça. Il faut donner du temps. 90% de l'horizon, c'est j'ai décidé de donner tous les jours du temps. Où par le silence vivant, Dieu va pouvoir agir à l'intérieur de moi avec puissance. Et là, on avait dit la dernière fois, puis je le rappelle, mais c'est un petit résumé, on avait dit la dernière fois à quel point c'était important pour que ce soit vraiment l'éternité qui puisse rentrer dans le temps de l'oraison, dans le temps divin, spirituel de l'oraison, dans ce regard essentiel que nous posons sur lui, nous nous perdons en lui, nous ouvrons toutes nos portes à Dieu. Là, on avait dit, ben voilà, il faut quand même bien voir que il y a quand même des petites conditions, parce qu'évidemment, si on est imbibé du contraire de Dieu, on a beau donner aller une demi-heure au Seigneur, vous savez, quand une éponge est imbibée de pourri, laissez-la sécher, il faut bien 2 mois, hein, avant que le pourri soit parti avec le soleil. 2 mois sans s'arrêter. Il ne faut pas qu'il y ait pourri dans l'éponge. Il ne faut pas qu'il y ait du pourri moisi. Voilà, il faut que le soleil soit très très chaud. Alors, bien sûr, donc il y a des conditions, et ces conditions, bien sûr, elles sont multiples, d'abord. Mais au minimum, on va comprendre que l'oraison va être le travail le plus important de toute ma journée, de toute ma vie. C'est au-dessus de tout. Que c'est le moment où c'est le sympa, c'est le moment où c'est lui qui va faire ma vie, c'est lui qui va rentrer, transformer, agir, pénétrer, c'est extraordinaire. Alors du coup on s'y prépare, il y a une préparation lointaine, une préparation prochaine, une préparation immédiate. Donc ça c'est ce qu'on avait vu, n'est-ce pas, la dernière fois. Alors le soir, quand on s'endort, ça, je rappelle ça, c'est très important. Le soir, quand on s'endort, on demande au Seigneur de pouvoir, demain matin, je ne sais pas quelle heure vous avez choisi pour l'oraison, si c'est juste avant de passer à table à 11h du matin, ou si c'est dès le lever, ou si vous avez décidé de faire oraison, je ne sais pas à quelle heure, peu importe. Hein. Il faut choisir une heure, hein, de toute façon. Et ayant donc choisi une heure, c'est la première condition, la veille, je demande au Seigneur, je vais m'endormir, on donne une immense confiance en toi, Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit, à la Sainte Vierge, à tous les saints, à tout mon ange gardien, tout ça, pour que demain, mon oraison, elle puisse me donner une grâce de transformation très très grande. Et je vais donc sentir le soir, c'est ça la préparation lointaine, je vais sentir le soir qu'il faut absolument que je fasse oraison de manière à ce que Dieu me familiarise avec lui, par exemple, je ne sais pas moi, dans l'horreur absolue du péché. Une horreur substantielle du péché. Oui, par exemple. Alors, c'est beau ça. Dieu ne comprend pas ce que c'est que le péché. C'est épouvantable pour. C'est plutôt mourir que d'avoir une complicité, même un milliardième de millimètre de complicité avec le péché. C'est ce que Dieu a fait. Il a préféré mourir plutôt que de renoncer à un milliardième de millimètre à la volonté du Père. Il va mourir 1000 fois plutôt de commettre la moindre petite nuance d'imperfection. C'est extraordinaire ça. Alors, je m'endors, par exemple, avec un souci qu'il est inspiré par Dieu, que demain, mon oraison me transforme sur un point particulier. Et que cette transformation ne soit pas humaine, vous voyez, soit une transformation vraiment divine. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser, évidemment, beaucoup de choses. Vous voyez, ici, il y a, par exemple, les 20 mystères du rosaire. Voilà, pour chacun des 20 mystères du rosaire, on peut très bien méditer un des 20 mystères du rosaire le soir avant de s'endormir, après tout. C'est pas long, hein. Un quart d'heure, vous faites la petite lecture, la petite méditation, et vous vous endormez avec ça, fruit du mystère, la disponibilité. Pour rentrer demain dans une révélation, une diffusion, une invasion de la disponibilité de Dieu lui-même. Vous voyez, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Ou alors, vous pouvez prendre, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les oraisons de Sainte-Brigitte. Voilà, je vais prendre une des oraisons de Sainte-Brigitte. Et c'est une de ces oraisons de Sainte-Brigitte, par exemple, je vais le soir m'endormir avec ça, en disant, ça, je voudrais que ça, que le Seigneur puisse vivre ça à l'intérieur de moi demain, l'oraison. Ouais, on s'endort, on prépare ça. Ou alors, on peut... Je sais pas, lire par exemple un passage de l'Apocalypse, un passage de la Bible, par exemple, les sept églises. On peut prendre une des sept églises et puis dire au Seigneur, moi je veux être le monde entier de l'église, de l'étoile de la résurrection. Et je vais lire ces passages, je vais lire ce passage très court, je vais m'endormir avec ça en demandant au Seigneur qu'il développe à l'intérieur de moi, qu'il déploie à l'intérieur de moi toutes les forces, les lumières. Les universels et sans limite fécondités qui sont cachés dans l'église de la Odyssée, par exemple. Ou alors, enfin voilà, hein, ou alors je vais demander, je vais m'endormir, en demandant au Seigneur, bon, de me donner quelque chose de, que je puisse comprendre ce que c'est que la dimension victimale de mon du sacerdoce de Jésus à travers moi. Ou bien alors, je vais supplier Seigneur de rentrer dans la béatitude des doux et de l'esprit de conseil. Prendre un don du Saint-Esprit. Ou alors, je vais rentrer dans un mystère de Marie. Je vais essayer de dire au Saint-Esprit, puisque c'est Saint-Esprit qui est venu transformer de l'intérieur le oui originel de Marie à l'instant où elle a été conçue dans la première cellule. Oh, je voudrais moi aussi recevoir cette transformation de mon oui dans l'oraison de demain, à la manière dont l'Immaculée Conception a été transformée surnaturellement, divinement, par la supervenue du Saint-Esprit dans son oui d'Immaculée Conception 9 mois avant sa naissance. Vous voyez, enfin voilà, je ne vais pas vous faire la liste, ce sera fini. Vous pouvez prendre une. On se prépare à l'oraison le soir avant de s'endormir. Et le matin, on fait oraison, et on rentre dans la préparation immédiate. Et donc nous avions vu justement que dans l'oraison elle-même, bien sûr, pour se plonger à l'intérieur de la présence de Dieu, il y a différentes demeures, parce que quelquefois on est tellement habité par tellement de choses différentes, des distractions, des préoccupations, des incompréhensions, des erreurs aussi pratiques. On est plein d'hérésies pratiques, on est plein de... Même si on a très bonne volonté, quand on a été très 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 bien formé, on a été très très bien formé, par exemple, on a lu tout saint Thomas d'Aquin, tout ça, et tout ça, vous voyez, on est venu à Domanova, donc on est très bien formé, tu vois. Alors, attends, il faudrait venir, je sais pas, Aristote disait qu'avant de commencer à devenir métaphysicien, il faudrait 40 ans. Et saint Thérèse d'Aquin, il dit il faut le double pour la vie surnaturelle. Donc ça fait 120 ans de formation non-stop. Sans arrêt, sans arrêt. Et on n'y est pas, hein, avec une goutte de lait, une fois tous les 15 jours. Une petite goutte homéopathique. Alors c'est les torts des hérésies qui nous imbibent tous les autres moments de la journée, de la semaine et du mois, et de la nuit, n'est-ce pas ? Parce que pour être bien formé, il faut mettre toutes ses billes. Il faut mettre toutes ses billes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pendant l'oraison, il faut mettre toutes ses billes. Il faut se plonger complètement dans l'oraison. Il faut être absolument impitoyable là-dessus. Il faut être impitoyable. L'oraison, il faut qu'on soit entièrement dans l'oraison. Pendant le temps qu'on s'est fixé. Et donc, il faut avoir une lutte ardente pour qu'il n'y ait aucune présence de pensée autre que ce regard sur Dieu. Et s'il y a des distractions qui viennent, il faut être impitoyable avec elles, on les chasse, on se remplit de Dieu immédiatement. Il y a quelque chose de... Mais alors, évidemment, comme tout le monde n'a pas cette habitude, c'est parce que c'est notre petit ruisseau, c'est une petite goutte homéopathique une fois tous les 15 jours. Une petite goutte homéopathique une fois tous les 15 jours. Alors ça ne fait pas un grand torrent. Ouais. Surtout que cette goutte, elle se sèche très vite. Pas... Alors ça ne fait pas un torrent impétueux. Or l'oraison, ça doit être un torrent impétueux. Il faut beaucoup de gouttes. Et c'est ça, alors du coup il y a la préparation immédiate. La préparation tout à fait prochaine, immédiate, c'est tout simplement que du coup, bon, allez, on s'était dit, il faut absolument que je fasse oraison, je vais donc me mettre en condition, je vais me confier donc vraiment à Jésus, à la Très Sainte Trinité, à Marie, je vais me mettre dans un endroit vraiment sacré, un truc où l'environnement s'y prête, parce qu'il n'y a pas la télévision qui hurle, le hard rock, etc. Pendant ce temps-là, vous comprenez, bon, et le chien qui aboie, et les vaches qui vont. Voilà. Non, on se met dans un endroit silencieux, tranquille, et voilà, et puis on se met devant un endroit sacré qui est béni, on se bénit soi-même, et on rentre dans le cocon, j'allais dire, de la chambre nuptiale réservée à Dieu. Bon. La préparation, ça c'est la préparation prochaine. La préparation immédiate, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans le temps de l'oraison, on est fidèle à l'oraison jusqu'au bout. On a dit ce sera 50 minutes, ce sera 50 minutes. Et on ne bouge pas de l'oraison, du moins on ne sort pas de ce temps réservé à Dieu tant que le temps qui a été décidé à la première minute n'est pas accompli jusqu'à la dernière minute. Pendant ce temps-là, eh bien, on va retrouver, se mettre sur ce tremplin qui nous permet d'être catapultés à l'intérieur de Dieu et qui permet d'ouvrir notre cœur aux dimensions de l'accueil sans limite du cœur du Christ qui accueille sans arrêt la présence du Père. Et pour ça, il va falloir, bien sûr, que je rentre dans une oraison, c'est ce qu'on disait, mentale. Une oraison mentale. Qui caractérise la première demeure. Vous savez que Saint Thérèse d'Avila dit, oui, sept demeures dans l'oraison, sept demeures dans le grand château où le Seigneur règne en maître et en roi. Vous avez sept grandes demeures, et la première demeure, la seconde demeure, la troisième demeure, c'est pour les commençants. Or, on est tous des commençants, puisque qui ne commence pas l'oraison ? Chaque matin, vous êtes commençant dès que vous êtes dans la première demeure, dès que vous commencez l'oraison. On est tous commençants. Marquez bien que, bon, c'est souvent le centre de gravité de notre oraison, ce sera peut-être la première demeure jusqu'au bout, parce qu'on est des commençants. La plupart d'entre nous, vous savez, c'est pas un secret, hein. La plupart d'entre nous, nous sommes des commençants. Je pensais, tiens, l'autre jour, j'ai eu quelqu'un que certains connaissent d'ailleurs, Tu me disais, ah ben moi, au bout de 20 ans de vie consacrée, d'adoration, d'oraison, de rosaire, d'activité non-stop pour le Seigneur, j'en suis encore à la première demeure. Hein, parce que moi, c'est quelquefois, on voit des coréatis qui sont. Moi, il me semble que je suis déjà à la cinquième demeure. Bien sûr. Continuez, tu vois. J'ai l'impression que j'en suis à la cinquième demeure. Non, bien sûr que non. La première demeure, vous savez, on est encore pourri, ce que vous voulez. On a encore tendance, on est encore dans une vie courante où on peut très bien rentrer dans le péché mortel. On sent bien que la matière grave, le péché mortel, est à notre porte. Et que si vraiment l'occasion se présente, on tombe dedans. Mais la première demeure, si on veut regarder ça par rapport à la vie chrétienne courante, qui va durer 1, 2, 3 ou 4 ans, eh bien on lutte contre le péché mortel. Mais de temps en temps, on tombe dedans, on fait un gros mensonge, ça arrive. C'est un mensonge, un sale, quoi. Une injustice, une malhonnêteté, vous voyez, quelque chose un petit peu... Oh, on se comprend, crapuleux, tu vois, mais quand même, c'est mon droit, tu vois, vous faites. Mais si c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez? Quelquefois, on peut avoir aussi des pensées lascives, vous voyez ce que je veux dire, pensées lascives, pensées un peu. Et puis, on s'y complaît pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ben, c'est une matière grave. Ça c'est la première demeure. On lutte contre le péché mortel. Vous voyez, ça c'est la première demeure. Alors, les gens, ceux qui n'ont pas besoin de passer par l'oraison mentale, si vous voulez, la méditation du début de l'oraison, c'est ceux qui n'ont plus jamais aucune défaite et qui n'en auront probablement plus jamais sur une matière grave pour le péché mortel. Alors, il lutte contre des imperfections, vous voyez, il lutte contre le péché véniel. Vous voyez, un péché mortel, vous savez ce que c'est qu'un péché mortel, quand même. La différence entre un péché mortel et un péché véniel. Un péché mortel, bon, pour chacun des commandements, il y a quelque chose qui fait que, non, ça, là, c'est grave. Vous perdez la grâce du baptême sans confession, vous n'êtes plus en état de grâce sanctifiante, c'est fini. C'est ça, le péché mortel. Parce que, vous comprenez, un péché véniel, voilà, j'ai fait un mensonge, je ne m'en suis même pas rendu compte, je m'en suis rendu compte juste une heure après. Bon, c'est un péché véniel. Vous voyez? Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, vous voyez? Bon, d'accord, j'ai eu une distraction un petit peu bien sentie, bien sensitive, tout ça, d'accord, mais bon... Pas consenti, quoi. Oui. Voilà, pour qui ne... Bon, là, on va lutter. Pourquoi est-ce qu'elle a ça? Du coup, ça fait des gens qui, dès le début de l'oraison, eh bien, ils peuvent rentrer dans une oraison affective. C'est tout de suite une communion avec le monde divin. Mais nous qui luttons contre le péché mortel, parce qu'on est des débutants, on est des commençants, on est faibles, on vient quand même d'une vie un peu agitée, quoi. On vient d'une vie où c'était le diable qui était le maître, c'était lui qui tenait toutes les rênes de mon monde intérieur, pratiquement tout, et puis avec un orgueil fou, et puis je me regardais, c'était trop longtemps, on est méga, ça, bon, voilà. Et maintenant, il faut passer... à l'humilité, il faut passer à la considération de la vie spirituelle, à la considération de l'autre. Il y a un minimum d'amour, un minimum de contemplation, un minimum de vérité. Alors nous qui sommes encore en train de parler là-dessus, allez, parce que vis-à-vis de son épouse, on n'est pas toujours extraordinaire. On boude. On murmure entre son épouse. Pas par vous. Bien sûr que non, mais... Pas par vous. Quand on a une épouse comme vous, c'est impossible de murmurer, tu vois. Mais il y a des épouses qui murmurent contre leur moitié sponsale. Moi j'en connais. J'en connais. C'est impensable, mais ça arrive. Oui, et comment faire dans ce cas-là? On lutte, alors on est dans la première demeure. Et donc on va commencer notre oraison, on va bien être obligé de commencer notre oraison en reprenant ce que la méditation, la supplication de la veille au soir a mis à l'intérieur de nous à l'état de germe. Et on reprend, mais oui, on rentre à l'intérieur de ce mystère extraordinaire de l'Immaculée Conception, mais c'est vrai, après tout, elle est sortie du cœur de Jésus, voilà, elle était tout entière ce qui sortait du cœur de Jésus, dans la première cellule d'un être humain, sans cerveau, ça. Elle dit oui, mais avec une plénitude de oui, qui dépasse tous les acquiescements spirituels de toute la création du monde, déjà, en plénitude de grâce, et là-dessus, pff, et c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, n'est-ce pas? On prenait ça comme méditation pour l'oraison. Et là, et d'un coup, le supervenu du Saint-Esprit dans ce oui qui est déjà en plénitude de grâce. Pouah, qui flambe tout ça. Ah, bon, alors, vous voyez, je rentre dans l'oraison, je reprends la méditation, mais en l'accompagnant, en la méditant, en pénétrant, en la contemplant, en l'assimilant. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'oraison mentale, l'oraison contemplative, l'oraison discursive. Une oraison théologique, c'est une oraison mystique, si vous préférez. Et on est bien obligé de faire comme ça, parce qu'il faut bien qu'on se remplisse de la vérité. Nous qui sommes totalement imbibés d'erreurs. Et donc on va s'imbiber, se remplir de cette doctrine dans le point précis où je désire être transformé dans l'opération du Saint-Esprit. En l'Immaculée Conception. C'est beau ça, de prendre ça comme thème d'oraison. Et vous pouvez venir des milliards de thèmes d'oraison. Et donc vous rentrez, et de manière qu'au bout d'un certain temps, à force de vivre ça, à force de rentrer là-dedans, une distraction, vous dégagez vite à nouveau le Saint-Esprit supervenu du Saint-Esprit, et puis vous, petit à petit, vous contemplez ce que votre propre oui à vous, avec parfait. Et puis il y a eu quelque chose, votre propre oui à vous, au moment où vous avez été conçu hein, par Dieu, avec quelque parfait, était en affinité avec ce humainement, avec cette origine de notre sœur, finalement. Bon, et puis comment vous allez rentrer dans l'océan si vous y allez avec ça? Et puis comment, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Et vous allez contempler ça, voyez, vous allez méditer ça, vous allez réaliser ça, vous allez actuer ça. Oraison mentale, première demeure. Ça, c'est, vous voyez, parce que du coup, ça déracine c'est pour déraciner tout ce qui vient des ténèbres. Vous voyez qu'il faut contempler la vérité, qu'il faut méditer les vérités très, très, très incarnées du mystère divin dans Marie, dans Jésus, dans le ciel, dans la terre, dans l'Évangile. Dans les dons du Saint-Esprit, dans les vertus infuses, dans les dispositions à la vie éternelle. Alors, une fois que, ça y est, que vous êtes rentré dans cette contemplation du mystère, vous êtes vraiment dans le mystère chrétien, dans le mystère du Christ, dans le mystère de Jésus, dans le mystère du Saint-Esprit, vous êtes vraiment dedans, parce que vous êtes vraiment rentré dans ce mystère, vous essayez de rentrer dedans, de le comprendre, de l'assimiler, d'en vivre. Alors à ce moment-là, au bout d'un certain temps, ça y est, vous pouvez dire, oh mon Dieu, que c'est beau ça. Oh, attends, mais c'est... Vous laissez rentrer dans quelque chose d'admirable, d'admiration, de remerciement, d'extasiement, de louange, d'admiration, remerciement, parce que je vous le donne, ça. Et il faut remercier, puis vous aimer. Il faut communier. Et il faut rentrer dans le réseau affectif. Vous aimez ça, quoi. Vous aimez ce milieu divin de la vérité. Vous aimez Jésus, vous aimez. Et vous rentrez dans un amour, vous voyez, vous allez faire des actes d'amour, vous allez vous laisser attirer dans ce qui est au-delà, dans ce que vous avez encore compris, qui pourtant est déjà admirable, et vous allez remercier. Il y a des gens comme ça qui peuvent passer toute leur raison à remercier. Oui, glorifier, admirer, se remettre en Dieu pour voir quelque chose d'encore plus admirable, et le bénir. Et continuer, et faire comme l'enfant, pas pour ça, c'est plus jeune, ça simple, qui aime Dieu. Ah, c'est un cas, se dit, en babillant, faire des louanges de babillement, d'onomatopée d'amour, vous voyez, de gémissement. Oh là là, oh, voyez, de rebondissement, de rebondissement, de transactuation d'émerveillement. Deuxième demeure. Ouais. C'est pas la perfection, c'est uniquement pour les commençants. Et 5, vous avez décidé 50 minutes, 50 minutes. Ça fait que 10 minutes. Oh, mais oui! Oui, non, mais c'est l'essentiel, ça, de l'horizon, c'est qu'il faut être fidèle. Alors, si, à un moment donné, vous verrez que, comme votre capacité affective n'a pas été très développée en cause en raison de la faiblesse de votre lutte contre le péché, vos capacités affectives, alors, vous allez jusqu'au bout, vous voyez, de ce que le Seigneur surmultiplie au sens de vos capacités affectives à l'amour de Dieu. Alors, à un moment donné, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. C'est pas que vous soyez fatigué, vous ne comprenez pas exactement où vous soyez fatigué, mais vous sentez que Dieu veut plus que ça. Dieu veut plus que ça. Alors, à un moment donné, c'est le silence qui prend possession. Le silence amoureux de Dieu qui est content de voir que vous l'aimez et que vous lui donnez du temps et que vous vous donnez à lui. Alors vous vous recueillez. Il y a un moment où il y a un recueillement qui se fait. Et vous vous recueillez. Vous découvrez ce silence habité. Vous aimez de voir ce silence habité qui se mélange au silence discret, caché de Dieu, parce qu'il se tait, Seigneur. Puisque c'est encore vous qui parlez. Alors, il se tait. Alors, mais vous allez donc vous recueillir. Et pour que pouvoir développer une disponibilité d'accueil à l'expression de Dieu lui-même, vous voyez. Vous allez vous faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour ne dépendre que de ce silence vivant de Dieu, à l'intérieur duquel il va prononcer le Verbe, sa parole, son expression, son intériorité. Troisième demeure. C'est encore les commençants. L'horizon de recueillement, c'est encore les commençants. C'est évidemment que si vous êtes un vétéran de l'horizon, c'est pas un vétéran, à ce moment-là, vous faites votre méditation, vos actes d'amour, un maximum d'énergie, de force, de puissance, d'intensité, de ferveur, ce recueillement silencieux, et à un moment donné, voilà, dans ce recueillement, à un moment donné, c'est Saint-Esprit. Qui apaise vos raisonnements, qui apaise d'abord vos sensations, qui apaise vos raisonnements, qui apaise votre cœur, de manière à ce qu'il s'élargisse et que ce Saint-Esprit qui prenne le relais dans l'unification divine de votre capacité à être en face de Dieu et au-dedans de Dieu. Quatrième demeure. L'horizon de quiétude. l'inquiétude, l'oraison commence. Ce qui ne veut pas dire que si vous faites oraison, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, si ça vous est encore jamais arrivé de recevoir cette inspiration de tout ce qui est en vous, à l'intérieur d'un centre où c'est Dieu du coup, qui agit, vous inquiétez pas, si vous faites oraison, tous les jours, 50 minutes, il y aura toujours, ne serait-ce que quelques secondes que vous ne percevrez pas, qui seront des moments d'oraison et d'inquiétude. Vous ne les percevrez pas. Parce que pour arriver à percevoir que l'oraison d'inquiétude s'est installée dans votre oraison, il faut que ça dure un bon quart d'heure. Ne vous inquiétez pas, vous avez des grâces d'oraison de quiétude qui font aller 15 secondes, 20 secondes, pendant que vous méditez, pendant que vous faites des états. Il y a aussi quelque chose qui se rassemble à l'intérieur de vous et qui appartient à l'oraison de quiétude. Mais néanmoins, l'oraison, en tout cas, elle est là pour que ce soit le Saint-Esprit qui agisse et se saisisse de mon esprit, de la profondeur de mon cœur et de l'essence de mon âme pour regarder Dieu en jouissant. Et du coup, en se rassemblant tout entier dans cette jouissance. C'est Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est l'horizon de quiétude. Donc on avait vu ça la dernière fois. Aujourd'hui, c'est ça qu'on avait vu la dernière fois, n'est-ce pas ? Alors, on avait dit aussi plein d'autres choses. Mais il faut avancer. Donc, alors, aujourd'hui, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va dire, puisqu'on est dans la première demeure des commençants, que vraiment il faut qu'on puisse immaculer dans l'oraison, tout à fait en dehors de toute perspective, et pour l'instant présent, et pour le passé et pour le futur, de toute trahison vis-à-vis du baptême. Vis-à-vis du passé, parce que je vais vraiment demander profondément pardon pour tout ce sur quoi je n'ai pas songé qu'il fallait demander pardon. Parce que j'ai trahi le Seigneur, vous savez, dans ma vie passée. Mais je vais demander profondément pardon. Et puis je vais pardonner mais profondément à tous ceux à qui je n'ai pas songé qu'il fallait pardonner. Et puis je vais recevoir profondément ce pardon. Bien sûr, je fais ça, c'est pour le passé, pour le futur, mais je donne toute ma vie et je fais confiance à Dieu qui me préservera désormais de tout péché. Et dans l'instant présent, je suis entièrement dans l'invasion de Dieu, qui me prenne tout entier. Ce moment est saint. Et je peux commencer une méditation comme ça. Et je dois le faire, d'ailleurs, comme ça. Mais la méditation des commençants, la première oraison, vous voyez, la première oraison du matin, regardez. Je pense que vous connaissez maintenant par cœur le processus, par exemple, le parcours d'une messe. C'est la messe mystique, en fait. Et bien, vous commencez, faites au nom du Père, vous dites acte de contrition, pardon pour tous les péchés du monde. Et puis, vous glorifiez Dieu avec les anges, gloria. Et puis, vous prenez la parole de méditation que vous aviez choisie la veille au soir. Ça peut être une seule parole, celle qu'il y a dans, que j'ai vue sur une page de Catholique du Net, là. Si tu deviens prière, tu transfigures l'univers. C'est beau ça. Si tu deviens prière, tu transfigures l'univers. Voilà une méditation. Voilà, je voudrais que ça soit vécu divinement, réellement, pendant mon oraison. Ah, voilà mon évangile. Et puis, du coup, je m'offre. Je m'offre envers toi. Et je me livre. J'offre tout le monde entier, j'offre toutes les souffrances du monde. Et je demande à Jésus de tout transformer en gloire pour lui, en rédemption de sorte que tous les péchés disparaissent du monde, de mon monde intérieur, et puis je communie à ça, et du coup je rentre dans l'amour de Dieu. Et je communie, vous voyez, ce que je viens de faire là. Je viens de vous le dire en 30 secondes. Donc vous pouvez le faire en 30 secondes. On va commencer l'oraison comme ça, en traversant la messe musicalement. Ce serait très bien de faire comme ça. Ce serait très beau. Et on va considérer, on va méditer, on va contempler, on va vivre en contemplant quelque chose qui nous fait rentrer dans la mission de Dieu sur la terre. C'est ça, vous voyez, la préparation immédiate, ou l'introduction, la mise dans le tremplin de l'horizon, pour qu'il y ait de l'amour. Et vous voyez, il y a, pour notre culture générale, il faut dire qu'il y a beaucoup d'écoles d'oraison, j'en donne beaucoup de conseils, etc. Alors, si vous savez lire Saint-Augustin, si vous savez lire Saint-Cassien, c'est passionnant, hein. Macaire le Grand, tout ça, donnez la Réopagite, vous allez lire Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, vous allez lire Bérulle, Bossuet, ou aussi, vous savez, par exemple, le cardinal Richelieu. Oui, monsieur. Le cardinal Richelieu était un spécialiste de l'oraison. Il faisait des traités et des conférences sur l'oraison. Cardinal Richelieu. Vous voyez, il fait de l'oraison et tout ça. Et puis, vous savez, des grands dominicains. Chacun, il va avec des conseils. Mais il faut bien dire quand même qu'il y a toujours quelque chose de commun. Et ce qui est commun, c'est qu'il faut bien commencer. Et qu'au bout d'un certain temps, Dieu prend le relais. Le Seigneur prend le relais, tandis que nous continuons à commencer. Et c'est ce qu'on appelle la voie des progressants. On progresse. Et on continue à commencer en progressant, et on continue à progresser, tandis qu'on continue à commencer à une progression. Et tandis qu'on continue à commencer cette progression, à un moment donné, ça s'élimine. Alors on rentre dans la voie éliminative. Et quand on commence à rentrer dans la voie éliminative, c'est l'oraison de quiétude. Quatrième demeure. Mais cette oraison de quiétude, à un moment donné, fait passer... pas seulement le souffle merveilleux des dons du Saint-Esprit et de la colombe qui nous saisit tout, qui fait que vraiment nous n'avons plus d'opérations qui viennent de nous. Il y a ce silence pacifique où Dieu prend toute sa place, et ce qu'il fait en moi, je ne sais même pas, mais je vois que c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait, c'est lui qui vit, c'est lui qui agit. Et à un moment donné, Dieu passe. Dieu passe. Dieu est passé. Cinquième demeure. Celui qui passe par cette expérience ne peut pas douter une seule seconde que ce soit Dieu qui soit passé. Voilà, il rentrera dans l'union avec Dieu. C'est la voie unitive. Et cette union, il faut qu'elle va tellement, il va tellement s'engloutir, c'est que les délicieusement dans ce passage de Dieu, il va tellement être recevoir tout le temps de Dieu, que cette union va devenir de plus en plus parfaite, c'est le fiançailles, et cette perfection deviendra tout à fait elle-même, c'est le mariage, c'est la septième demeure. Mais dans toute oraison, même pour les commençants, il doit y avoir une touche de chacune de ces illuminations. Union, passage de Dieu, fiançailles, don absolu et éternel, mariage parfait. Même si le mariage, dans ma 50 minutes d'oraison, ne durera qu'un centième de seconde, ne vous inquiétez pas. Si nous faisons oraison avec Jésus, si nous faisons oraison avec Marie, si nous faisons un voisin avec Joseph, je vous affirme qu'il y aura, dans les 50 minutes, si je suis intransigeant, si vraiment je donne ces 50 minutes, il y aura une touche de chacune des deux. Le centre de gravité sera pas dans la septième demeure. Je suis tout à fait d'accord. Comment ça? Le centre de gravité sera dans la lutte. Si vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi j'ai envie de boxer ma mère? Elle est tranquille, elle a arraché les yeux. Elle dit, mais quelle merde, je vais pas cracher tout ce que j'ai fait. Elle a arraché ma mère. Attends, mais hop, je reviens. Jésus, aide-moi. À la sorte de gravité, à la première demeure, comprenez. Mais vous inquiétez pas, c'est le démon, c'est ce qui arrive. Hein. Mais, et ben, il y a des choses de la cinquième demeure, là-dedans, de la nuit de l'esprit, bien sûr. Ben, le Tintin, il va vous rentrer dedans, et vous avez une fureur que vous n'avez jamais eue contre votre mère, puis vous dites tout à pour maman, elle dit pour rien, quoi. Et puis, vous vous rendez compte que finalement, il y a pas mal de purifications passives, et qui viennent bien sûr de ces phénomènes qui nous viennent des purifications passives du concupiscible, pas seulement du concupiscible, mais aussi des purifications passives de l'esprit. Il y a ça, bien sûr. C'est pas à nous d'analyser. Ce que nous analysons, ce que nous donnons qui vient de nous, c'est le temps. Jésus l'a dit, je ne juge pas. Le jugement est remis au Père. Même Jésus ne juge pas. Alors vous allez juger votre raison. Non, on ne juge pas de son raison. On donne du temps à Dieu. Ça, c'est très important. Alors, donc j'en étais à dire, beaucoup donnent des conseils. Comme vous pouvez constater, je ne donne aucun conseil. Et je dis simplement ce que des choses, disons, courantes, quoi. Donc je ne donne pas de conseils. Je dis simplement la loi de Dieu, quoi. C'est quand même marqué, c'est quand même, vous prenez le psaume 33, hein, vous verrez. Le psaume 33, c'est marqué, hein, il faut quand même que... Oui, autant l'évangile, chapitre 9 de l'évangile de Saint-Luc, vous voyez, celui qui veut me suivre, ben, qu'il renonce à lui-même, vous voyez, première demeure, je renonce au péché. Qu'il prenne sa croix, c'est l'acquisition des vertus, c'est pour que l'amour puisse commencer à avoir une petite qualité, petite, et qu'il me suive, on est pris en charge sur les épaules du Christ. C'est l'horizon de recueillement qui commence. Et lui, il nous confie à Marie, c'est la présence d'inquiétude. Et vous savez ça, c'est dans le seul évangile, c'est dans la Sainte Écriture, il faut faire oraison. Hein. Il faut faire oraison, c'est pas du tout une invention de spirituel qui s'embêtait, qui savait pas quoi faire. Non, pas du tout. C'est tout à fait nécessaire de faire oraison, c'est pas du tout facultatif. Si quelqu'un peut faire oraison dans sa vie, ben, ça veut dire qu'il doit traverser toutes les demeures de la purification au purgatoire. Première demeure, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième demeure. Oh. Et là, c'est pas du temps qu'on donne à Dieu, c'est la durée. Alors, ça marque tant mieux pour le purgatoire, mais... La durée, vous savez, centuple la difficulté, hein, vous savez ça. Donc les conseils qu'on donne. Ah, eh bien, il y a un conseil qui est donné par ce qu'on appelle l'école française. Alors sachez que l'école française, vous voyez, c'est celle du 17e, 18e siècle en France. Ça donne Saint-Vincent de Paul. Les noms, c'est le Père Ollier, vous savez qu'on a découvert Saint-Joseph, on a découvert tout le monde de ça a donné Bérulle, ça a donné enfin, tout le monde de l'horizon justement des commençants. de Saint-Sulpice. L'oraison de Saint-Sulpice. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de l'oraison de Saint-Sulpice aujourd'hui? Parce que l'école française. Pourquoi? Parce que c'est l'oraison qui nous met le plus proche, finalement, du Sacré-Cœur de Jésus. Et ça me plaît. Parce que aujourd'hui, on est plein de péchés. Il faut qu'on aille très vite. On n'a pas le temps à perdre. Donc il faut que la miséricorde du Seigneur brûle tout. Le Sacré-Cœur de Jésus doit avoir la première place. On n'est plus dans une société de gens extraordinairement parfaits. Comme à l'époque grecque, à l'époque romaine, où c'était du stoïcisme. Les gens étaient vertueux. Oui. Ou à l'époque victorienne, tout le monde était vertueux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut vraiment... On n'est pas vertueux, on est pauvre, on est faible, on a des imperfections. On tombe tout le temps dans le marécage, on n'y voit pas. On est pris par l'imaginaire. Alors, il faut vraiment que ce soit le Sacré-Cœur, vous voyez. Il faut que ce Sacré-Cœur vraiment brûle tout. Il faut que... Alors du coup, il faut, c'est pour ça que l'oraison des commençants avec l'école de Saint-Joseph et l'école du cœur de Jésus qui bat et qui dit « Ah, mais voilà !» et puis qui me donne toute son innocence, puis qui brûle tout le reste, qui fait disparaître tout le reste d'un seul coup. Ça, c'est très très beau, c'est très important. Alors eux, ils donnent une méthode, oui, c'est ça. Quand les gens donnent des conseils, ils donnent des méthodes. Alors, voilà la méthode qu'ils donnent, c'est ça, à titre tout simplement de figuratif, hein, comme ça, d'illustration. Parce que moi, finalement, je vous ai donné des exemples. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, mais pourquoi on ne ferait pas la messe pendant 45 secondes? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent comme... Et tous les prêtres, vous voyez, pendant 3 siècles, ont été formés comme ça. En France. Et puis, finalement, dans le monde aussi. Hein. On leur apprenait à faire oraison comme ça, jusqu'à ce que ce soit complètement habituel et que ce soit totalement sorti du péché mortel. Si un prêtre faisait encore un péché mortel que je puisse faire, il ordonné le prêtre. Et donc il fallait qu'il passe au-delà précisément des commençants, qu'ils rentrent dans la vie, dans leur raison, dans le recueillement tout de même, hein, à un moment donné. Dans son centre de gravité, ça passe de départ quand même. Hein. Alors, et donc, voilà, tu commences ton oraison, préparation immédiate, tu commences ton oraison en te mettant en présence de Jésus. Et tu parles avec Jésus parce que tu invites Jésus et il est là, devant toi. Pas Jésus là-haut, vous voyez? Pas Jésus, pas Dieu là-haut, très très loin. Non, non, Jésus là, il est là. Il est là. C'est lui. C'est Jésus. Et mon oraison consiste avec mon regard à regarder Jésus qui est là. Parce que je vais faire oraison avec le Père et avec le Saint-Esprit. Donc nous sommes plusieurs. Et lorsque vous êtes plusieurs en mon nom, je suis là. Donc Jésus est là. Parce que vous avez fait quand même au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous êtes plusieurs. Il y a le Père, le Saint-Esprit et vous. Donc vous êtes plusieurs. Donc Jésus est là. Attends. C'est clair. Donc Jésus est là. Donc Jésus, il est là. Il est là. Donc tu ne vas pas faire oraison à Rachid. Ah, pardon, Seigneur, tu es là. Il est là. Si Jésus est là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui parler, il est là. Tu vas le découvrir, tu vas considérer qu'il n'y a plus que lui qui compte. Sa présence là physique, sa présence réelle, sa présence vivante devant toi, là. Alors, non, ça suppose, c'est super, c'est pour ça que c'est à l'époque là qu'on a commencé à faire des statues en plâtre. Des statues. On appelle ça le statut sulpicien. Les grands artistes, très snobs, disent vite on la saute, on casse ce statut, c'est nul, du point de vue artistique. Mais oui, mais du point de vue Du point de vue de l'oraison, ce n'est pas nul du tout. Jésus est là. Faites oraison, vous recueillez. Jésus, il est là. Vous savez qu'il est là, vous le savez. Fermez les yeux si vous voulez, si ça peut vous aider. Mais en tout cas, il est là. Si vous ouvrez, ah non, je ne le vois pas. Bon, fermez, il est là. Il est là. Parce que vous vivez en communion avec l'Esprit, avec votre ange gardien. Les préparations lointaines aussi, hein. Je vous le dis au passage, parce que nous luttons contre le péché. On est tout le temps en présence de son ange gardien, vous savez, toute la journée, nuit et jour. Donc il y a des attitudes, et on est en présence de pas mal d'enfants aussi. Hein. Vous savez, il y a des enfants qui sont avec nous. Les gens qui sont partis au ciel, et qui sont là avec nous. Hein. Donc on ne se balade pas à poil, quand on est tout seul. Mais vraiment n'importe quoi. Non, c'est bon, écoutez, je suis tout seul, ça ne dérange pas. Non mais. Ah, si vous faites comme ça, je suis tout seul, ni vu, ni venu, ou je sais pas quoi, et après vous faites oraison, comment voulez-vous? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, les préparations internes, mais ça, les préparations internes, c'est-à-dire, on n'est pas dans le sujet. Il y a évidemment qu'il y a des conditions qui font que je peux voir Jésus. Dès que je suis en présence, on est plusieurs chez mon ange gardien. Il y a l'Immaculée, elle est invitée à l'oraison, aux noces de Cana, aux noces de l'oraison, quand mon cœur va être transformé dans le cœur de Jésus. Bien sûr, Marie est invitée, les apôtres sont invités, les anges sont. Mon ange gardien est là, bien sûr, attend pour que ma prière puisse prendre une intensité sans limite. Ma prière est toute petite, mais avec mon ange gardien, il la prend et il lui donne une intensité sans limite. Elle pénètre à l'intérieur de Dieu le Père. Et du coup, il donne une intensité incréée à ma prière, le Père. Bon, si mon ange gardien n'est pas là, ma prière, hein. Donc, on est plusieurs. On est ensemble. Donc, qui, lorsqu'on est plusieurs en son nom, il est là. Et donc je regarde Jésus qui est là. Et alors là, évidemment, vous pouvez méditer. Mais c'est ça la méthode de Saint-Sulpice. Là, je disais justement, c'est ce qui m'a décidé à vous en parler, c'est parce que j'ai lu le récit d'une sainte qui s'appelle Marguerite Marie, qui est la sainte qui a eu l'apparition du Sacré-Cœur en France à Paray-le-Monial. Elle commençait son oraison. Elle faisait une méditation. Elle commençait son oraison. Elle faisait une méditation. Au moment où elle commençait sa méditation pour entrer dans l'oraison, vous voyez, vraiment, dans le sujet, tu vois, elle entend, elle commence sa méditation, Jésus, et elle entend un appel pressant. Elle entend un appel pressant déchiré. Elle l'entend, angoissée. C'est Jésus qui est là, devant elle, et qui pleure. Et qui crie. Et elle le voit déchiré, avec des coups redoublés, pour dire « Ouvre-moi, regarde-moi !» Ouvre-moi la porte, tout de suite. Donne-moi sans retard un abri. De partout, il n'y a personne pour m'ouvrir la porte. De partout, je suis outragé, profané, déchiré, piétiné. Ouvre-moi. Il n'y a personne. Alors elle la voit, elle le voit, elle l'entend, elle est stupéfaite, elle le voit couvert de sang, tout palpitant. Il a pris davantage, il demande d'être accueilli, il veut trouver son repos, il veut sortir de ce monde, cette création qui le jette le déchire de tous les côtés, le broie, pour s'épancher à l'intérieur d'un peu de repos. Et quand Sainte Marguerite, toute émue, est pleine d'une exquise tendresse, lui ouvre son âme pour qu'il puisse s'écouler et s'unir à elle, entrer en elle, dans son cœur compatissant pour qu'elle puisse souffrir avec elle cette souffrance incroyable du péché du monde, alors elle l'entend une deuxième fois exhaler un soupir de soulagement, d'abandon, de précipitation en elle, de reconnaissance. Comme un blessé à qui on a retiré un glaive de douleur insupportable et qui s'endort dans un doux sommeil réparateur. C'est beau ça. C'est pas seulement beau, c'est comme ça qu'on commence une oraison lorsqu'on est français. Jésus est là, il faut l'entendre. Il faut entendre ce cri de Jésus qui est là. Qu'est-ce que t'attends? Je suis là. Ouais. Ce cri de Jésus. Il n'en peut plus. Tant qu'il n'a pas trouvé quelqu'un. Tant qu'il ne m'a pas trouvé. Et c'est pas qu'il n'en peut plus à la manière d'un petit enfant un petit peu capricieux, c'est Dieu, hein. Donc c'est avec l'intensité de désir éternel, absolu de Dieu, qui saisit son cœur glorifié, vous voyez, mais déchiré, immolé. C'est avec une intensité incroyable, réelle, au-delà de toute imagination, réellement. Alors, après que tu m'as parlé avec lui, que tu dis, Seigneur, je voudrais découvrir, ben, tout, il te parle, et ça y est, c'est clair, nous sommes ensemble, nous sommes plusieurs, nous sommes ensemble, et Jésus est là, il n'y a que lui qui compte, et ce dont il a besoin, il a besoin de s'écouler délicieusement dans son membre vivant pour trouver une unité et donc une paix, pour pouvoir rebondir dans le Père. Alors, dans un deuxième moment, il va y avoir une communion avec lui, vous voyez. On va passer de l'oraison de méditation, de considération, à l'oraison affective, une communion. Il va y avoir une communion. Jésus va rentrer à l'intérieur. C'est toute l'intériorité souffrante, immolée de Jésus qui va rentrer à l'intérieur de mon immolation. J'ai immolé du temps, mais en immolant du temps, je m'immole moi-même dans l'immolation de Jésus. Et il va y avoir un amour, je vais être attiré par cette soif. Je vais avoir ce désir d'aimer. Et avec lui, puis de me reposer dans cette soif d'amour et d'y trouver ma place, mon lit. Mon apaisement, et je vois que Jésus trouve en face sa paix aussi. Et donc, il y a l'oraison d'amour. Il y a l'oraison affective, deuxième demeure. Et là, évidemment, je ne voudrais pas faire venir à l'intérieur, au milieu, une pensée est-ce que le plombier va arriver, quoi. Vous sentez bien qu'à ce moment-là, ça ne vient pas. C'est vrai, c'est la deuxième demeure, c'est beau ça, hein, la victoire sur le péché venial. Et alors, si on fait ça, on demeure jusqu'au bout, et on rentre dans ce moment où il va pouvoir, à l'intérieur de cette unité, extasier, nous deux extasier ensemble, peut-être donner quelque chose du ciel. On va se réveiller tous les deux dans quelque chose qui vient du ciel. Troisième demeure, on va se réveiller. On va coopérer ensemble à faire que quelque chose qui vient du ciel rentre dans la terre. C'est ce que l'horizon des Sulpiciens appelle la coopération. Donc adoration, contemplation, union, communion, on s'écoute délicieusement l'un dans l'autre, coopération, un rayonnement. Et du coup, à l'intérieur de l'oraison, quand je termine, 50 minutes c'est arrivé, eh bien, je dis, ben voilà, ça ce que j'ai vécu avec Jésus maintenant, je vais prendre une décision. Hein. C'est clair, quoi. C'est clair, maintenant je me promènerai toujours bien habillé, ben, correctement, avec plus de pudeur. Surtout quand je suis seul. Et je vais, parce que ce sera ma manière de voir que Jésus est présent. Vous voyez ? Donc je vais conclure le soir, enfin jusqu'au soir, par une coopération, un rayonnement de mon oraison. D'accord ? Si bien que le soir, j'arrive et je peux préparer mon oraison du lendemain. C'est beau, hein, vous voyez. C'est vrai, la méthode de Saint-Sulpice, l'oraison de Saint-Sulpice, c'est vraiment le cœur de Jésus, c'est vraiment le sacré cœur de Jésus, c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de Jésus, mais qui crie, quoi. Et il est là, c'est Jésus qui est là. Je vous ai donné au départ un petit papier où il y a marqué principe et fondement. Vous allez voir, finalement, la méthode espagnole, c'est très intéressant de voir tous ces saints, c'est Saint Ignace de Loyola. Hein. Saint Ignace de Loyola. Bon, bah écoutez, c'est pas compliqué, vous prenez le papier, le soir, vous le regardez tranquillement, ce petit papier, il fait quoi? Il fait 3, il fait 5, et 5, 10 lignes, n'est-ce pas? Et puis, vous méditez tranquillement pendant 10 minutes. Ce principe et fondement de l'oraison de Saint Ignace de Loyola, le patron des Jésuites. C'est beau ça, hein? Et vous allez lire tout simplement ça, l'homme, Adam. Ben moi, bien sûr, mais arrêtez de tourner autour de vous. Hein? Arrêtez de tourner autour de vous. L'homme, Jésus. Ah ben oui, lui, l'homme. L'homme, Marie, voilà quelqu'un qui a une humanité qui est tout à fait elle-même. Attends, moi, je ne vais pas prendre l'homme, moi. Je ne suis pas un homme, je suis un pauvre. Je m'appelle quand j'étais petit, j'étais un âne. Bon. Donc l'homme est créé. Ah oui, j'ai été créé pourquoi? Ah oui, demain, je fais oraison là-dessus. Je fais oraison là-dessus, principe et fondement, que le principe de tout, je voudrais comprendre le principe de tout, demain, à l'oraison. Je voudrais que le Seigneur me révèle ça, me donne ça, ça y est, ça m'appartient, ce sera quelque chose de lui et de moi ensemble. Ah oui, je veux savoir pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé pourquoi? Pour être charcutier? Pour être mère de famille? Je décris pourquoi? Pour être roi de France? Il y en a qui pensent qu'ils ont été créés. Pour être roi de France? J'en ai connu 6 en confession. 6. Mais j'ai même vu des gens qui pensaient qu'ils étaient créés pour être pape. J'en ai vu. J'en ai vu personnellement. Bon. Qu'est-ce que j'ai pas vu? C'est fou ce qu'on voit quand on est dans un ermitage. Alors, donc là, on est créé pour louer. Attends, on est créé pour quoi, enfin? C'est vrai, écoute. T'es créé pour être humble? Non. T'es pas créé pour être humble. T'es créé pour être... Nous avons été créés pour... J'ai la finalité, pourquoi j'ai été créé? J'ai été créé pour louer Dieu. Jésus a été créé comme homme pour louer Dieu. Jésus comme homme a été créé pour remercier Dieu, pour glorifier Dieu, pour le louer. Il a été créé pour ça. Est-ce qu'il a été créé pour dire je l'ai? Non. Il a été créé. Et Marie, il a été créé. Oui, son oui, il m'a créé pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Pour révéler Dieu. Révérer Dieu, ça veut dire le voir et le revoir à la manière dont il se voit lui-même. Revérer, c'est voir, vous voyez, c'est le revoir, mais avec cette espèce de... à la manière dont il se voit lui-même, c'est le voir et le revoir à la manière dont il ne cesse on appelle ça les effacements divins. Vous voyez, c'est pour ça que quand on grimace ça en faisant une révérence.
Mais pas pour un mot, Monseigneur.
Pourquoi? Parce que je le vois, je le revois, mais en m'effaçant. Et du coup, je le vois. Et donc, l'homme a été créé pour voir Dieu et le revoir, et ne cesser de le voir plus profondément. En s'effaçant à ce moment-là, il devient de plus en plus humain en faisant ça. On a été créé pour ça, sur la terre. Au ciel aussi. On a été créé pour vivre ça sur la terre. Si jamais l'être humain avait été créé pour ne vivre que sur la terre et après terminé, il ne vit plus, il aurait été créé que pour ça. Mais il se trouve qu'après ça continue. Et pour servir Dieu, notre Seigneur, on a été créé pour servir Dieu, pour des instruments. Dieu va servir de nous. Dieu va servir de nous. On va être des serviteurs, on va être des instruments. Dieu, l'homme, moi, j'ai été créé, Marie a été créée pour que Dieu se serve d'elle pour spirer l'esprit saint. Le Père et le Fils se sont servis de l'Immaculée Conception, ils sont servis d'elle pour spirer l'esprit saint, pour produire l'esprit saint. Et moi aussi, j'ai été créé pour ça. Et donc, je vais lire, vous voyez, je vais méditer ce soir, ce calcul. Vous voyez comment on fait pour méditer? Je vais en faire un petit peu avec vous. Vous faites divine comme ça, évidemment, si ça dure, si vous faites à ma manière, parce que vous êtes encore 4h du matin. Mais au moins un peu, vous voyez? Au moins un peu, vous comprenez? Vous regardez. Et le lendemain matin, puisque vous êtes très très bien disposé, n'est-ce pas? Parce que la nuit, ça, je veux rentrer longtemps. Hein. Je veux que le Seigneur puisse faire ça devant moi. Puisque je t'en supplie, on va faire vos communes, on vit ça ensemble, Jésus et moi, Marie et moi. Qu'on vive ça ensemble. Est-ce que vous pouvez faire vos raisons avec le cœur immaculé de Marie aussi? Marie est là. Marie est ressuscitée. Hein, et elle porte Jésus glorifié en elle. Et c'est les deux cœurs unis qui vont supplier d'être accueillis. Et puis ensemble, on a tellement demandé, vous recevrez. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Si tu es dans l'horizon des commençants, il faut demander. Et le péché sera déraciné. C'est pour ça qu'on demande la veille. que du coup il y ait cette oraison. Vous comprenez? Parce que sinon vous pouvez lutter contre le péché pendant 20 ans, hein? Même si vous priez beaucoup, hein? Si vous ne faites pas oraison, à la manière dont le Seigneur le dit, je veux dire, vous allez ramer, hein? Sans oublier qu'à un moment donné, il faudra attaquer la falaise. Bon, alors. Et par là, sauver son âme. Et toutes les autres choses qui existent dans le monde. Tout ce qui existe dans le monde. Tout a été créé pour que l'homme soit cela. Et pour l'aider à vivre cela. Jouer. Rêver à voir Dieu, éternel instrument, éternel, source de gloire. Les cerises ont été créées pour ça. L'écureuil. Moi j'aime bien les amandes. Il y a des amandiers ici. Mais malheureusement cette année, et l'année dernière aussi, il y a un écureuil. Il me mange toutes mes amandes. Pourquoi est-ce que Dieu a créé cet écureuil? Mais pour que je puisse louer Dieu. Voir Dieu. Et servir d'instrument. Il suit de là que l'homme doit user de tout ce qui existe sur la terre dans la mesure seulement où elles vont l'aider à louer, à révéler et être un instrument de Dieu. Et il doit s'en séparer dans la mesure où elles ne le portent pas à louer, à révéler et à être un instrument de Dieu. Pour cette raison, il est nécessaire de nous rendre indifférents, voilà ce que je vais demander dans l'embrasement demain matin, à tout ce qui est créé dans l'univers, en tout ce qui est laissé à ma liberté et tout ce qui ne m'est pas défendu, je me rends indifférent à tout ça, de telle manière que je ne puisse plus vouloir de mon côté plutôt la santé que la maladie,